Politique américaine, Vincent Gosselin.
Vous écoutez Choc FM 105.1, on poursuit avec maintenant notre page politique américaine et notre spécialiste en la matière. C'est avec plaisir que je reçois Vincent Gosselin au téléphone pour évoquer tout d'abord en quelques mots les suites du procès de l'affaire Floyd. Évidemment, je parle du procès Chauvin. Bonjour Vincent.
Bonjour Monsieur Lorrain.
Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous résumer peut-être les derniers rebondissements de ce procès?
Oui, on est dans la deuxième semaine du procès du policier Derek Chauvin, accusé du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd. Ça serait passé le 25 mai 2020. Et donc, la deuxième semaine, des témoignages très attendus. Ce qu'on a vu, entre autres, lundi, témoignage très, très important. Là, c'était le chef de la police, l'ancien chef de la police de Minneapolis au Minnesota, qui est venu témoigner pour dire que il considère que c'est de l'abus, c'est les gestes qu'a posé Derek Chauvin, le fait de s'agenouiller sur un individu. Il dit que c'est une pratique qui existe dans la police pour contrôler un suspect, mais que ça devient déraisonnable à l'instant où la personne est contrôlée, ne résiste plus. Et là, il dit, lorsque George Floyd s'est évanoui, bien évidemment que c'était de l'abus. Et là, on reproche, entre autres, de ne pas avoir réévalué la santé du suspect, de M. Floyd, qui était accusé, je vous le rappelle, qui était soupçonné, du moins, d'avoir payé avec un faux billet de 20$ pour acheter des cigarettes à une épicerie. Mm-hmm. Et là, donc, du côté de la poursuite, on parle des gestes qui encadrent le travail des policiers, et une ancienne responsable de l'Académie de police qui forme les policiers a dit que, de son côté, Derek Chauvin a improvisé, que c'est pas un geste qui est enseigné, mais du côté du chef de police, on disait que, même si c'est pas enseigné, c'est quand même utilisé de temps à autre.
Voilà, Derek Chauvin, donc accablé par ces derniers témoignages. On continue de suivre de près ce procès. Dans la chronique aujourd'hui, on parle également, il y a quelques jours, de cette attaque du Capitole à Washington. Voulez-vous rappeler les faits?
Oui, c'est près de 3 mois quand même après l'assaut sur le Capitole du 6 janvier dernier. Cette fois, c'est une nouvelle attaque, toujours près du symbole de la démocratie américaine, mais cette fois-là, c'est un seul individu armé d'un couteau. Je vous résume les événements. L'homme a voulu forcer un barrage de sécurité. Il a foncé en voiture sur 2 policiers. La voiture a heurté une barrière et par la suite, il est sorti du véhicule avec son couteau. Des tirs ont été nécessaires pour le neutraliser. Et au final, le suspect et un policier ont succombé à leurs blessures. C'est l'agent Williams Evans du service de police du Capitole qui est en fonction depuis 18 ans, donc un vétéran quand même. Et un autre policier dans tout ça a été blessé par l'assaillant. Donc, du côté des faits, on a 2 décès, dont un policier et le suspect lui-même et un autre policier blessé.
Et vous le disiez un petit peu après, ces attaques du Capitole, c'est de nouveau l'émoi. Quelle a été la réaction du président Biden?
Du côté de Joe Biden, évidemment, il a dit qu'il a le cœur brisé d'apprendre ça et qu'il est excessivement triste tout maintenant. C'est la même réaction pour les 4 leaders du Congrès, donc autant du côté de la Chambre des représentants que du Sénat. Le drapeau de la Maison-Blanche a été mis en berne, tout comme ceux du Capitole. Donc, la réaction est unanime au sein des politiciens à Washington.
C'est bien ça, et on pose de nouveau la question de la sécurité du Capitole, en fait, qui semble être mise à mal par un simple individu.
Exactement. On sait que la sécurité avait été fortement augmentée à la suite des émeutes du 6 janvier et pour l'inauguration de Joe Biden. On avait dernièrement relâché légèrement certaines barrières de sécurité qui avaient été dernièrement retirées. Le périmètre de sécurité aussi avait été resserré autour du bâtiment, donc on couvrait une moins grande partie. Et là, ça pose encore la question de la sécurité au Capitole. Et c'est d'autant plus inquiétant que les faits se sont produits tout près de l'entrée de nombreux parlementaires du côté du Sénat. Là, par chance, la semaine dernière, les élus ne siégeaient pas. La semaine dernière, ça s'est passé vendredi. Et donc, on pose quand même la question sur la sécurité du Capitole. On ne sait pas encore beaucoup de choses. D'ailleurs, les motifs du suspect sont pas clairs pour le moment. La police écarte toutefois la menace terroriste, mais on continue d'enquêter.
C'est bien ça. Je crois que la personne n'était pas connue des services de police et on penche donc plutôt pour une action isolée.
Exactement. On ne sait pas grand-chose non plus sur le suspect. On l'identifie toutefois comme étant un Afro-Américain de 25 ans, originaire de l'Indiana. Quelques informations circulent, entre autres sur ses réseaux sociaux. Sa page Facebook donnait quelques informations de radicalisation. On sait également par les réseaux sociaux qu'il aurait vécu des moments difficiles durant la pandémie, qu'il a récemment quitté son emploi. Mais on n'en sait pas plus pour le moment sur le suspect. L'enquête va nous le dire, évidemment.
Bien sûr. Merci Vincent pour ce point toujours très clair sur cette attaque de Washington. On passe maintenant à un autre point, l'élection d'une représentante républicaine qui est mise en doute par les démocrates. C'est celle de Marianette Miller-Mix. Est-ce que vous voulez nous expliquer cette controverse électorale?
Oui, c'est la représentante républicaine à la Chambre des représentants pour le deuxième district d'Iowa. Et là, c'est particulier parce que c'est l'élection au Congrès la plus serrée depuis les 100 dernières années. La marge de victoire de la représentante Miller-Mix n'est que de 6 votes. Donc, imaginez-vous, là, 6 votes, l'erreur est facile dans le recomptage des voix. Et là, ce sont maintenant les démocrates qui contestent. De leur côté, ils disent que ça n'a rien à voir avec les allégations de fraude de Donald Trump. Mais pourtant, la représentante avait été déclarée vainqueur par les officiels des élections de son État. C'est bipartisan. La victoire avait été certifiée. Elle avait été officiellement assermentée. Le mandat est débuté depuis janvier, mais la candidate défaite, la démocrate Rita Hart, qui est une ancienne sénatrice de la législature de l'État d'Indiana, elle allait que 22 bulletins non comptés ont été rejetés, et sur ces 22 bulletins-là, il y en aurait eu 18 pour la candidate démocrate, évidemment, avec les 6 votes de marge, ça aurait changé les résultats. Ouais. Elle s'est adressée à un comité de la Chambre, mais bon, à la fin, là, la démocrate a abandonné le recours la semaine dernière, donc c'est tout récent. Mais évidemment, ça ne fait pas du tout l'unanimité, d'autant plus que les démocrates ont fortement critiqué les fausses allégations de fraude de Donald Trump. De ce côté-là, on parlait pas de fraude, mais on posait des questions sur la légitimité d'une élue.
Bien sûr. Alors, que disent les républicains sur cette affaire?
Ben, ce qui est particulier, c'est qu'on sait que, entre autres sur la destitution, il y avait eu 10 représentants républicains à la Chambre des représentants qui avaient voté en faveur du chef d'accusation. On voyait qu'il y avait un certain désir bipartisan de contrer les fausses allégations de fraude. Mais là, pour ce qui est de ce cas-là, avec la représentante républicaine dont l'élection a été remise en question, 9 des 10 représentants républicains qui ont appuyé la destitution de Donald Trump ont écrit à Nancy Pelosi pour lui dire que c'était ce que les démocrates faisaient, c'était illégitime, que ça affecterait aussi la confiance envers le système électoral. Donc là, on a vu un grand clivage partisan cette fois.
Et oui, toujours une grande opposition entre les partis sur des problématiques pourtant similaires. On passe maintenant à cette idée de passeport vaccinal qui nous emmène au Royaume-Uni. Vous avez voulu, Vincent, je crois, vous pencher sur ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, qui est en passe de vaincre peut-être, ou en tout cas qui est en avance sur la lutte contre le virus. On pense très sérieusement à ce vaccin, à ce passeport vaccinal. Où en est-on et en quoi consiste-t-il?
Oui, je déroge un peu aujourd'hui de mon principal mandat de couvrir la politique américaine. La semaine dernière, je vous apprenais que l'administration Biden envisageait en coulisses d'instaurer un passeport vaccinal. Il y avait des discussions, il n'y a rien annoncé, mais au Royaume-Uni, on y pense très sérieusement. Là, en ce moment, selon Boris Johnson, il n'y a pas encore de plan finalisé, mais on en parle ouvertement en conférence de presse. Et d'ailleurs, lundi, il y a un déconfinement qui a été annoncé au Royaume-Uni qui entrera en vigueur lundi prochain, le 12 avril. Évidemment, on assure que le passeport vaccinal ne sera pas en fonction d'ici lundi prochain. Mais on parle peut-être aussi d'un vote à prévoir à la Chambre des communes britanniques sur la question. C'est pas écarté non plus par le premier ministre. Donc, sur le plan du passeport vaccinal, on n'a pas encore beaucoup de détails parce qu'il n'y a pas encore de plan finalisé. Mm-hmm. On sait que le gouvernement consulte les industries, le secteur pour voir comment tout ça pourrait se mettre en branle. On verra bien. Mais il faut le dire, là, d'autant plus, là, c'est important parce que si on prévoit un vote à la Chambre des communes, la réaction est très mitigée en ce moment, là. Ça pourrait ne pas passer auprès des députés britanniques parce qu'on sait déjà que les libéraux-démocrates, qui est un plus petit parti d'opposition, s'y opposent. L'opposition officielle, le Parti travailliste, n'a pas encore pris position. Le chef de l'opposition, Keir Starmer, est hésitant. Mais du côté des conservateurs de Boris Johnson, c'est même assez divisé en ce moment-là. Il y a 70 députés qui ont écrit une lettre ouverte destinée à Boris Johnson pour signaler leur opposition à une telle mesure. Mais parmi ces 70 députés-là, il y en a 41 qui sont conservateurs. Ça veut dire que si on avait 60 conservateurs, puis tous les partis d'opposition qui s'y opposaient, la mesure serait rejetée. Ce serait une grande défaite pour le premier ministre Johnson.
Alors, je pense qu'on peut assez bien comprendre de quoi un passeport vaccinal, de quoi il s'agirait, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle serait l'utilité de ce passeport et comment est-ce qu'il sera mis en place?
Oui, le passeport, on mise surtout sur l'assurance, parce que quand une personne présente le passeport vaccinal, ça veut dire qu'elle est vaccinée, qu'elle est immunisée, du moins à forte proportion, et ça assure que l'individu en question est à faible risque parce qu'il est vacciné, donc ça veut dire que ça permettrait fort probablement de rouvrir certaines sphères de la société, d'accorder plus de liberté en toute sécurité, là, permettre davantage de rassemblements, d'événements de masse, parce que si on sait que toutes les personnes dans le rassemblement sont vaccinées, bien évidemment que c'est rassurant, ça diminue les risques de propagation, de complications aussi si une personne est contaminée. Alors, on parle d'augmenter le nombre de passagers, de réduire les restrictions à la frontière, de desserrer aussi la distanciation sociale. Donc, le passeport vaccinal au Royaume-Uni, ça pourrait être quelque chose d'assez important qui pourrait mener à un déconfinement plus rapide. Et du côté des détracteurs, on parle surtout de discrimination face à un passeport vaccinal. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact dans la société? Mais on assure quand même que le passeport ne serait pas obligatoire pour les services essentiels. Donc, évidemment, là-dessus, c'est plus rassurant. Et donc, et je tenais à vous en parler parce que on a regardé ce qui se passait aux États-Unis, mais on sait depuis le début de la pandémie que l'Europe vit la pandémie en décalage avec un peu d'avance sur nous. On parle des fois de les experts disent peut-être 3 semaines d'avance sur nous. Donc, c'est probablement, et fort probablement, un débat à prévoir au Canada sur le passeport vaccinal. On a commencé à en parler un peu. Au Royaume-Uni, c'est assez sérieux en ce moment.
En effet, merci beaucoup, Vincent Gosselin, spécialiste en politique américaine et qui va même donc un petit peu au-delà pour vous, chers auditeurs, avec cette question ô combien cruciale du passeport vaccinal. On se retrouve très prochainement sur les ondes de Choc FM. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Toujours un plaisir.